Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés. Aujourd'hui, nous allons commettre une petite émission de questions, enfin vos questions, nos réponses, ces réponses. Et avant de commencer, je voulais vous remercier d'avoir placé ce petit ouvrage en numéro un des ventes le week-end dernier, enfin ce week-end, et ce week-end de...
Sur Amazon,
oui, bien sûr, je n'ai pas les résultats de tous les libraires de France. Et voilà, ça nous a fait grand plaisir, je dois dire. Et...
Ben, ça prouve que c'était nécessaire, parce que oui, ça prouve que les gens se posent des questions et que... Peut-être il y a des réponses là-dedans.
Voilà, alors j'ai vu dans des commentaires Amazon que des gens, enfin une personne désobligeante du reste, disait « Oui, mais je suis très fâchée parce que je voulais apprendre en pratique comment gérer. » Mais c'est remarquable car nous avons en effet créé à cet effet l'Université de l'épargne qui vous permet d'apprendre en pratique comment gérer vos quelques sous et que faire de votre épargne.
Et il y a les gens qui vous posent des questions à l'intérieur du forum, et les gens sont très amicaux et se répondent des uns aux autres, et c'est quelque chose auquel je suis particulièrement sensible parce que c'est bien ce que j'espérais.
Voilà, donc il y a cette partie communauté où on essaie de s'entraider les uns les autres, et par ailleurs, il y a une partie de cours qui ont été, il y a plus de 55 heures aujourd'hui de cours avec lesquels vous pouvez vous former et qui ont été réalisés par nos blancs chemins. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir l'Université de l'Épargne à www.universitedelepargne.org et on vous permettra comme ça de compléter votre formation si toutefois s'occuper de votre propre argent vous intéresse, comme le livre a semblé vous intéresser. Alors aujourd'hui, des petites questions. Bonsoir Charles-Emmanuel, merci pour l'opportunité. Il y a quelque chose que j'aimerais comprendre. Est-ce possible qu'un marché en action monte en même temps que sa monnaie s'apprécie? Je pense oui, mais j'aimerais comprendre les mécanismes derrière. En effet, si on s'attend à une dévaluation de l'euro versus le yuan, avoir des obligations chinoises serait judicieux, non plus pour les taux d'intérêt de ces dernières, mais pour jouer le taux de change à long terme.
C'est une très bonne question. Alors, je vais essayer de répondre. Il y a deux cas de figure. Pardon, j'ai un chat dans la gorge.
Un troupeau de chats, plutôt.
Je vous demande pardon.
Ils sont plusieurs.
Je les ai vus. Et ils sont tous très mignons.
Gilles, fais quelque chose.
Donc, la première question, c'est si vous êtes un pays extraordinairement mal géré avec une monnaie qui ne correspond pas à votre productivité, etc., qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'à un moment ou à un autre, le taux de change va devoir s'ajuster à votre productivité.
Donc, dans un pays normal qui n'aurait pas des taux bloqués.
Qui n'aurait pas des taux bloqués, etc. Mais ça finira par sauter. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez un certain nombre de sociétés, comme Air Liquide au hasard, allez, ou Schneider, ou des gens comme ça, qui font la plus grosse partie de leur chiffre d'affaires en dehors d'Europe. Et là, ils sont dans un monde concurrentiel, ils sont concurrents, etc. Les seuls coûts qu'ils ont en France, si on prend des gens comme Air Liquide, etc., c'est grosso modo, allez, ou Total, c'est grosso modo leur siège social, les employés qui sont en France, plus une ou deux petites boutiques ici ou là, mais ça ne représente rien. Donc vous vous dites, ils ont 100 de courant en France et 1000 de mettons, en dollars à l'extérieur. 100 en euros et 1000. Si d'un seul coup, l'euro disparaît ou se pète la gueule, leurs coûts vont baisser et les 1000 vont devenir 1500 dans la monnaie française à ce moment-là, si le franc baisse de 50%. Ce qui se passera, c'est donc vous, en tant qu'actionnaire, vous êtes protégé contre une dévaluation par le fait que vous possédez des sociétés qui ont la plus grosse partie de leur chiffre d'affaires à l'étranger. Ils s'en foutent, eux. Donc, les cours d'Air Liquide, de Total, etc., monteront à due concurrence de la baisse de la monnaie. C'est ce qu'on appelait autrefois en bourse le quatrième. Une hausse de misère. Tu vois, parce que tu ne devenais pas plus riche, c'est simplement que tu avais investi soigneusement ton fric dans un endroit qui était déjà investi à l'extérieur et qui bénéficie de dévaluation. Donc ça, c'est le deuxième cas, celui auquel il fait l'allusion. Si vous avez à ce moment-là des obligations chinoises, ben elles monteront, puisque la monnaie chinoise montera contre ce qui sera le franc français à l'époque, et vous gagnerez d'autant. Donc avoir des obligations chinoises ou avoir des Air Liquide, c'est dans le fond, dans les deux cas de figure, bénéficier d'une dévaluation de la monnaie française. Bon, donc ça c'est le premier cas. Maintenant, imaginez que vous ayez un pays très bien géré et qu'il y ait une monnaie qui soit sous-évaluée. Peut-être la Chine aujourd'hui, qui a des comptes courants, c'est-à-dire une balance commerciale, excédentaire de 80 milliards de dollars par mois. C'est 1000 milliards de dollars par an, quoi. C'est quand même... c'est monstrueux. Ça veut dire que... on a beaucoup parlé de la Chine, du fait que maintenant la Chine avait réinvesti dans le domaine industriel. Il semble que la Chine soit en train de régler ses problèmes de frontières avec l'Inde.
Et j'ai une question sur ça.
Oui, bon, on en reparlera. Mais ça veut dire que probablement la Chine va pouvoir se brancher sur le développement indien. Et donc ça va être un mariage tout à fait réussi. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Vous voyez un pays bien géré, dans lequel la monnaie est sous-évaluée, et vous dites, bon, comment je peux en profiter ? Ben, tu te dis, la monnaie va monter. Oui. Si la monnaie monte, le pouvoir d'achat international du consommateur chinois va monter.
Évidemment.
Il va pouvoir aller prendre ses vacances à Bali pour moins, etc. Donc tout ça, ça va monter.
Aux Philippines.
Aux Philippines, à Hong Kong. Et donc, à ce moment-là, vous vous retrouvez dans un pays où les valeurs de consommation, c'est-à-dire les valeurs internes, pas les liquides locales, mais les valeurs internes, tu vois, vont bénéficier de la hausse du pouvoir d'achat des Chinois. Et tu auras une monnaie qui monte, avec des valeurs de consommation qui montent, et des taux d'intérêt qui vont baisser, puisque le capital arrivera de tous les pays du monde pour s'investir là-dedans, ce qui fera baisser les taux d'intérêt. Et ça s'appelle, en jargon boursier, non pas une hausse de misère, mais un scénario du triple mérite, où tu as à la fois la monnaie qui monte, les taux d'intérêt qui baissent, et les valeurs de consommation qui montent. Et grosso modo, ben, c'est ce que j'attends pour toute l'Asie par rapport à l'Europe, et par rapport aux États-Unis. Donc, oui, les deux cas sont possibles. Mais tu ne joues pas tout à fait la même chose dans les actions. Mmh. Tu vois, dans un cas, tu joues plutôt les valeurs de consommation. Dans l'autre, tu joues plus les valeurs qui font un chiffre d'affaires à l'étranger.
D'accord. Oui.
C'était une très bonne réponse que j'ai faite. Hein. je suis très content de moi.
Tu es fier de toi ?
Fier de moi.
Bon, je te la pose quand même. Concernant la Chine qui passe, c'est quelqu'un d'autre, hein. Concernant la Chine qui passe progressivement d'un marché de production à un marché de consommation, n'est-ce pas le début du scénario d'effondrement qu'a vécu l'URSS, que vit l'Europe, qui sera rejoint par les USA avec la chute du dollar, vieillissement, mortalité et embourgeoisement de la population, crise immobilière. À quelle échelle de temps cela peut-il se produire? Les cycles longs semblant se raccourcir à chaque période. Ou alors, est-ce contradictoire avec le fait que la Chine stocke de plus en plus d'or et tente une relance par la production, mais dans les politiques ressemble de plus en plus à des mécaniques libérales ?
Oui, il y a beaucoup
libéral,
de questions.
Libéral, je ne sais pas, mais capitaliste, oui.
Capitaliste, certainement. Libéral, oui, enfin, le libéralisme, c'est quand même... pas seulement, mais beaucoup... laisser les gens qui doivent faire faillite. C'est-à-dire la création destructrice, quoi. C'est quand même la base du capitalisme et donc du libéralisme. La prise de risque, et si vous vous trompez, ben vous perdez tout. Et ça, la Chine le fait très bien.
Oui, mais il y a un autre problème. Si tu regardes le libéralisme du point de vue de son humanisme, tu as aussi besoin, pour avoir un véritable libéralisme, d'avoir une protection de l'individu devant l'État. Je ne me rends pas forcément compte de toute l'emprise juridique de la Chine, mais je ne sais pas si la protection de l'individu au niveau habeas corpus est à son meilleur en Chine aujourd'hui.
La Chine, on en a souvent parlé. Dans une société, la liberté peut s'exercer, mettons, dans trois domaines. C'est le domaine économique, acheter, vendre, embaucher des gars, les virer. Tout ça, ça fait partie de la liberté économique. La liberté sociologique, c'est-à-dire que on t'embête pas si tu vas à la messe ou des trucs comme ça. Ça, en Chine, c'est un peu moins. Et puis la liberté politique, tu votes et tu choisis les dirigeants. Et ce qu'avait fait Lee Kuan Yew en Singapour, quand il a pris le contrôle de Singapour dans les années 50, il y avait des famines à Singapour, c'était un pays extraordinairement pauvre. Il a dit, écoutez, la liberté économique, vous l'avez. La liberté sociale, on va y bosser, mais ça prendra du temps, etc. La liberté politique, on se revoit dans 40 ans, vous voterez tout le temps, mais vous aurez le droit de voter pour moi, quoi. Tu vois, c'était, Et ça a très bien marché. Donc, aujourd'hui, la Chine a une liberté économique, capitaliste, le capitalisme assez dur d'ailleurs. Elle a une liberté sociologique qui s'améliore, c'est-à-dire que par exemple le droit de propriété est de plus en plus protégé par les tribunaux, ça se passe pas parfaitement, mais c'est mieux. Quant à les libertés politiques, on se revoit dans 40 ans. Ils n'ont pas le temps de s'occuper d'être populaires. Ben, je crois honnêtement qu'aujourd'hui, le citoyen chinois est plus libre que le citoyen français. Parce qu'en France, nous n'avons pas de liberté économique, ou plus aucune. La liberté sociologique, il n'y a qu'à voir le nombre de fois que je suis invité sur les radios d'État. C'est pour se rendre compte qu'il y a des gens qui ne sont pas invités, quoi. Et la liberté politique, si je comprends bien, j'ai le droit de voter pour Fabius ou pour Juppé, qui sont des clones, quoi. Mais sinon, je suis immédiatement considéré comme un type d'extrême droite, et donc mon vote n'est pas recevable. Non. Donc, ces histoires de démocratie et tout, il n'existe qu'un pays démocratique au monde vraiment aujourd'hui. À l'heure actuelle, c'est la Suisse, hein, puisque c'est les gens qui votent eux-mêmes. Sinon, et libéral aussi d'ailleurs. Le fait de me dire que la France est une démocratie, j'écoute ça avec beaucoup d'intérêt, mais j'ai de moins en moins la sensation que on vote en fonction des intérêts, des demandes de la population. Le gouvernement n'est pas fait dans cet esprit-là, quoi. Il est fait pour nous créer une Europe dont personne ne veut. Mais à part ça, j'ai pas vraiment de mots à dire, quoi.
Alors, Kylian te demande, bon, d'abord te remercie pour tes précieux conseils et te demande la chose suivante. Petite question d'épargne, mais depuis une autre perspective. Indépendant avec une entreprise qui possède pas mal de cash en banque, des centaines de milliers, que conseillez-vous en termes de gestion de cash et d'investissement hors France, vu la situation économique et politique actuelle ? Un volet université de l'épargne d'entreprise pourrait être très intéressant, vu le nombre croissant de freelances et indépendants aujourd'hui.
C'est
vrai que si tu as du cash, d'ailleurs on est maintenant dans ce cas-là, et que tu te places dans un temps long en disant, je sais pas, t'as 300K, 400K auxquels tu vas pas toucher, tu les mets où, tu fais quoi avec ?
Alors là, c'est une très bonne question. Et il faudra en effet qu'on y réfléchisse. On a développé avec Didier un certain nombre d'outils qui peuvent permettre de gérer du cash en fonction des taux de change, tu sais. C'est simpliste, c'est même un peu simplé, mais ça marche plutôt bien. C'est-à-dire, tu te dis, j'ai le choix entre 4 ou 5 monnaies. Mettons, tu te dis, je vais mettre en sterling, en dollars, en euros, en yens.
Et vous jouez le forex ?
Et on joue à ce moment, tu te mets en dépôt dans les différentes monnaies. Mm-hmm. Tu vois, tu peux le forex. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait un classement. On dit quelle est la première monnaie sur 12 derniers mois, quelle est la deuxième, quelle est la troisième, quelle est la quatrième, quelle est la cinquième. Et on investit toujours dans les deux premières monnaies.
Ok. Donc, et tu te retrouves avec quoi du coup ?
Tu te retrouves avec 8 ou 9% par an avec une volatilité assez faible.
En général, la première monnaie, ça va être quoi ? Dollar, franc suisse
Non, ça change.
Ça change ?
Ça change. Et, compte tenu des taux d'intérêt qu'elle verse.
Oui.
Donc ça change. Et de temps en temps, tu te retrouves parfois avec... on a rajouté le yuan aussi. Et ça donne des résultats pas mauvais. Donc, ce à quoi peut s'amuser la personne, c'est, si elle sait faire tourner un tableau Excel, ce qu'elle doit savoir faire si elle est dans une entreprise, c'est de faire ce petit classement elle-même, tu sais. Et puis, de ne pas investir dans les deux ou trois dernières monnaies. Et d'investir dans les deux premières. Et ça marche très bien. Ça te donne un... Et c'est un truc bête comme chou, hein. Ça veut dire que il y a une espèce de, c'est les gens qui achètent, tu sais, le momentum. Quand quelque chose a été bon depuis un certain temps, il y a tout un tas de gens qui suivent, qui sont des suiveurs, et ça, c'est une espèce.
Et donc, l'avantage, c'est que tu n'as pas de risque du tout sur ça.
T'as des risques de variation des taux de change, oui.
Oui, mais tu peux, oui.
Il n'y a rien qui peut t'arriver, mais tu as des dépôts à toi. Dans une banque, il faut simplement que tu aies une banque qui permette de passer facilement d'une monnaie à une autre, mais ça tu vas chez
Sur Revolut, ils font ça. Tu peux changer sur You aussi.
Tu peux changer sur Swissquote, tu peux changer sur...
Oui.
Comment ça s'appelle la carte qui est en Revolut. Tu peux faire ça facilement.
Oui,
donc, faut simplement... Nous, on l'a pas mis à la disposition des clients parce que on le fait pas nous-mêmes, d'ailleurs. Enfin, si, on l'a fait en théorie, mais on l'a pas fait en pratique. Parce que, bon, on a... Mais il va peut-être falloir qu'on le fasse. Oui, c'est peut-être un... C'est une... Mais cette idée de créer une des cours pour les gens qui doivent gérer des cash à court terme.
Tu vois, comme ça.
Pourquoi pas, on va y réfléchir.
On va y réfléchir. Nicolas Pichon te pose la question suivante. Bonjour Nicolas. Le cours du baril du pétrole reste à 70 dollars malgré des diminutions de production de barils et malgré les guerres. Pourquoi, à votre avis ? Est-ce que, comme de plus en plus de ventes d'énergie se font sans le dollar, cela a-t-il un impact pour vous, justement, sur le prix du baril en dollars ?
Alors, oui, c'est une très bonne question, encore une fois. C'est fou ce que les questions sont bonnes. Le fait que beaucoup de transactions se fassent pas en dollars fait que, sans doute, le marché du pétrole est plus facilement manipulable. C'est-à-dire qu'autrefois, si tu veux, quand la Chine achetait sur le marché spot ou quand l'Inde achetait sur le marché spot en dollars... Les volumes étaient tels que c'était difficile. Maintenant, il est probable que les autorités américaines ont tout fait pour que le prix du pétrole ne dépasse pas 70, puisqu'on avait des élections qui arrivaient et qu'il fallait pas que le prix de l'essence monte. Que ça se termine dans 2-3 jours, ça, on va voir ce qui se passe après. Donc ça, c'est la réponse à la première question. Est-ce que il va rester là longtemps? J'en sais foutre rien. Ce qu'on peut dire, c'est que quand même... Bon, on trouve pas d'énormes gisements de pétrole. Si apparemment les Russes viennent en trouver un énorme dans l'Arctique ou l'Antarctique, je sais plus où. Enfin, qui compte en milliards de barils, donc.
Là-haut.
Enfin, ça caille. Ça caille. Et là, donc, il est possible qu'on ait trouvé un gros gisement de pétrole récemment, mais les Russes. Mais on trouve du gaz partout.
Ouais.
Mais vraiment partout, on en trouve. Et c'est un substitut. Donc il y a peut-être un effet de substitution du pétrole au gaz qui fait qu'il maintient le prix du pétrole bas, quoi. Tu vois, c'est possible. Ça, c'est. Mais pour l'instant, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais en même temps, le gaz, c'est pas du tout aussi fongible que le pétrole. Je veux dire par là, c'est qu'il faut le compresser, le mettre dans des bateaux spéciaux, l'envoyer à l'autre bout du monde. C'était bien quand on avait le gaz qui arrivait par des pipelines de Russie, mais je me suis laissé dire que les Russes avaient été assez bêtes pour faire sauter leur propre pipeline.
Oui,
donc...
ils sont pas très malins.
Non, ils sont très bêtes, les Russes. C'est terrible, ça. D'ailleurs, tout ce que nous dit la presse française tout le temps.
Voilà. Hein. Alors, on te demande... Bonjour à vous tous. J'ai plusieurs questions sous la main. Qu'avoir dans sa boîte à chaussures ? Hors physique, cash en euros, malgré une faillite de l'euro ? Dans votre livre, Cessez de vous faire avoir, aux pages 17-18, vous indiquez que vous expliquez l'actif du cash, mais il s'agit de l'explication des bons du trésor à 3 mois. Le cash est alors un bon du trésor ? Quels sont les risques de contrôle d'échange ? L'argent placé est-elle soumise à cela ? Signé un élève de l'Université de l'Épargne. Voilà.
Eh ben, c'est très bien. Alors, première réponse, contrôle d'échange. Ça va être extrêmement difficile de mettre un contrôle d'échange, si j'ose dire, quand il y a le Bitcoin.
Oui, ça, oui.
Il faut bien dire.
Oui, mais il faut aussi être réaliste. Le Bitcoin, si tu veux, ça... Les gens qui l'utilisent sont univers masculin, relativement citadin, encore qu'il peut y avoir des épiphénomènes. Et ça touche un public qui, pour l'instant, est relativement epsilon en France, parce
mais
que les gens ne savent pas...
S'il y a des contrôles d'échange, ça va aller très vite. Hein.
Mais tu vois, je suis pas persuadé que là où on est allé à Saint-Martin-du-Gré, les gens soient hyper Bitcoin, tu vois.
Non, c'est pas impossible. Donc, mais le Bitcoin, ça rend la chose difficile. C'est une machine, dans le fond, à empêcher le contrôle d'échange, le Bitcoin. Alors, si pour l'instant, les gens n'en ont pas besoin, puisqu'il n'y a pas de contrôle d'échange, mais il pourrait se développer très vite s'il y en avait. Hein, quoi. C'est, sinon, dans la boîte à chaussures, qu'est-ce qu'il faut avoir ? Moi, j'ai un vieil ami qui est d'origine juive et dans sa boîte à chaussures, parce qu'il y a une histoire familiale.
L'histoire veut que les pauvres, ils aient eu à bouger souvent et rapidement.
Et qu'ils aient eu besoin d'avoir... Et son père lui disait toujours, il faut que tu aies toujours 2000 francs suisses dans ton portefeuille. Mm. C'est une famille aisée, pour pouvoir te barrer à toute allure. Donc... je crois que si vous devez avoir des billets dans une boîte à chaussures chez vous, c'est à la limite aussi bien. Mais Napoléon, si vous passez à la douane avec vos Napoléons, vous allez vous faire choper avec les trucs qui vont les voir, quoi. Donc, le franc suisse, c'est un bout de papier, vous n'avez pas d'interdiction d'avoir des francs suisses sur vous, quoi. Donc, c'est les deux plus gros billets au monde. C'est le billet de 1000 francs suisses, je crois. J'en ai vu un ou deux, c'est très beau.
Je crois qu'il y en a un de Singapour qui est très gros aussi.
Il y a 1000 dollars de Singapour, ouais. qui est bien aussi, qui est un truc...
Je n'ai jamais vu, mais...
Moi non plus, je n'ai jamais vu. Donc, vous avez les deux plus gros billets. Donc, je ne sais pas, avoir quelques billets en francs suisses dans son...
Oui, dans sa boîte à chaussures,
c'est... C'est pas plus haut.
J'en profite d'ailleurs pour vous dire la chose suivante. Certains d'entre vous disent, oui, mais je ne comprends pas, quand vous parlez à l'Université de l'Épargne d'acheter des ETF, que ce soit Asie ou énergie, vous les achetez en euros, alors que vous nous dites que l'euro va tomber. Mais on ne vous fait pas acheter l'euro, on vous fait acheter des valeurs de croissance. Que votre ETF soit libellé en euros au moment où l'euro va se péter la gueule, et ben ma foi...
Il montera d'autant, c'est comme air liquide.
Voilà, c'est-à-dire vous aurez beaucoup plus.
Beaucoup plus d'une monnaie qui vaudra de moins en moins.
Qui vaudra de moins en moins, mais votre ETF sera toujours, par rapport au dollar, valorisé autant. Voilà. Puisque on ne joue pas l'euro dans cette valeur ETF, on joue la croissance monde. Que ce soit libellé en euros n'a absolument qu'une incidence.
Okay.
Donc arrêtez de poser des questions du style « oui, je vais convertir en livres » ou « je vais convertir ». Ça ne change rien, là, pour le coup. Une fois que vous achetez un tracker...
Si vous achetez Exxon, par exemple, et que dans le temps, c'était le cas, mais ça n'est plus... Exxon, dans le temps, était coté à Paris, en plus d'être coté à New York. Bien sûr, Exxon, c'est la plus grosse valeur pétrolière du monde. Eh bien, si le franc français serait dévalué, Exxon montait du prix de la dévaluation. Quoi.
Évidemment.
Le fait que vous soyez coté en francs n'avait aucune valeur sur l'action Exxon coté à Paris.
Mais bien sûr.
Donc, c'est comme...
Voilà, c'est juste une unité de compte, en vérité, c'est la façon donc. Mais vous, la valeur structurelle de l'action.
C'est Exxon.
C'est Exxon.
C'est les puits qu'elle a partout.
Voilà. On te demande, bonjour Monsieur Gaff, pourriez-vous nous donner dans l'histoire économique un exemple de bouleversement technique schumpeterien qui serait comparable à ce qui pourrait se passer avec l'intelligence algorithmique, l'IA, et son effet sur l'emploi, l'épargne, la productivité ?
Ah oui, mais j'ai écrit. Oh, pour ceux qui s'intéressent à ce genre de questions, j'ai écrit quoi, il y a une vingtaine d'années, oui, par là je pense, au chemin un peu moins, un livre qui s'appelait « C'est une révolte, non sire, c'est une révolution », dans lequel j'expliquais qu'on rentrait, il y avait eu trois grandes révolutions dans l'histoire de l'humanité. La première, c'est qu'on est passé de la cueillette à l'agriculture, si vous voulez, ça a créé les villes, etc. Et puis, il y a eu la révolution industrielle qui s'est passée en Angleterre, au 18e et au 19e. Et pour ça, c'était la révolution industrielle, ça permettait de multiplier par un facteur puissant la force mécanique de l'homme. C'est-à-dire que vous aviez les machines à vapeur qui pouvaient porter des choses beaucoup plus loin, etc. Et puis, dans ce livre, j'indiquais que l'on était en train de rentrer, c'était il y a 20 ans, dans une troisième révolution qui était la révolution de la pensée, où les machines allaient d'un seul coup nous donner des informations beaucoup plus rapidement que ce qu'on n'avait jamais fait. Donc c'était la révolution de la connaissance. On rentrait dans une économie de la connaissance. Et donc c'est la troisième dans laquelle on était en train de rentrer. Pour l'instant, c'est très intéressant. Ce qu'en dit Musk, qui est certainement l'un des observateurs les plus remarquables de cette nouvelle révolution, et l'un des acteurs aussi, il dit « Le problème avec l'intelligence artificielle, c'est qu'il faut l'éduquer. » C'est-à-dire, il dit « Le problème, c'est que vous prenez quelqu'un comme Google, ils ont dépensé plein de pognon là-dedans, et ils ont éduqué leur intelligence artificielle de façon stupide. Par exemple, on a posé une question à Google qui était « Donnez-moi des troupes d'élite qui soient acceptables, moralement. » Et elle vous avait sorti des photos de SS noires. Vous voyez, c'était parce que les SS, c'était des troupes d'élite, et noirs, c'était... Donc, ce que dit Trump, il dit, faut faire très attention à l'intelligence artificielle, parce qu'on va automatiquement mettre au départ des espèces de jugements de valeur, et si vous mettez des jugements de valeur qui sont faux, vous arriverez à des résultats idiots. Donc, c'est quelque chose qui calcule à la vitesse de la lumière, mais qui, si on lui a mis une fausse hypothèse au départ, va t'emmener dans des imbécilités foudroyantes, quoi. Donc, par exemple, nous ici, ça fait longtemps qu'on travaille avec des choses d'intelligence artificielle. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver des réponses qui ne soient pas précises, mais qui soient robustes. Parce que le danger avec ça, c'est que tu cherches à avoir des réponses extrêmement précises et qui seront fausses. Je te donne un exemple, c'est moi dans mon métier, la question la plus importante, c'est par exemple, est-ce que les taux d'intérêt vont monter ou baisser? Ça, c'est si j'ai une intelligence artificielle qui me dit, avec relativement de certitude, ils vont monter ou baisser, c'est très 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 bien, je suis très content. Mais maintenant, savoir si les taux français vont passer de 3 à 3,54, si je demande ça à l'intelligence artificielle, elle va me dire, elle va me trouver un truc à 3,54, mais ça sera idiot. Donc, il faut se servir de cette intelligence pour faire tous les travaux idiots. Par exemple, je pense que ça va être un sale coup pour beaucoup d'avocats qui étaient très bien payés pour aller chercher des jurisprudences. Mais l'intelligence artificielle, elle va chercher les jurisprudences sur le cas.
Je pense que surtout, ça va être un sale coup pour les traducteurs de livres.
Oui, pour les traducteurs de livres, pour les avocats qui cherchent, pour tout ce qui peut être fait rapidement et mécaniquement.
Oui. C'est-à-dire que tout ce qui était corporate, un petit peu rédaction des statuts, ce genre de choses, où on avait en général trois personnes en interne qui refaisaient du contrat et qui voilà, ça va être fait assez rapidement. Les jurisprudences, je sais pas, parce que quelquefois, en vrai, quand tu fais des recherches jurisprudentielles, la force c'est la capacité que tu as. Par exemple, moi je sais que j'avais un cas, on devait pour l'Europe, prouver que les capsules Nespresso pouvaient pas être on a perdu, mais on pouvait pas mettre des capsules Nespresso différentes que la marque Nespresso. Ouais. Du coup, il fallait aller chercher des jurisprudences de tout ce qui pouvait être des cartouches. Oui. Donc, tu dois réfléchir à tout ce qui peut être une cartouche. Donc, tous les fusils, évidemment, les imprimantes.
Bien sûr.
Et dans quelle mesure ça pouvait endommager l'appareil. Et on avait eu des jurisprudences avec les fusils, justement, qui disaient que oui, si vous n'utilisez pas une marque ou des cartouches qui ont été, l'appareil va être endommagé. Et donc, ceci, cela, voilà. Donc, quelquefois, c'est...
Mais pas aller chercher ces jurisprudences, ça aurait été plus rapide.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la capacité humaine
à
faire des liens sur des choses sur lesquelles tu ferais pas forcément des liens, mais parce que tu tords un tout petit peu la vérité.
Tu tords un peu, mais ça, avec le droit, on a l'habitude. Alors, par exemple, je te donne un exemple, c'est que j'ai entendu parler d'un gars qui est un spécialiste, tu sais, des ressources humaines dans une très grande boîte. Et alors, imagine-toi maintenant que les ressources humaines, une grosse partie de leur boulot, c'est d'intégrer dans leur... truc de ressources humaines, toutes les directives qui arrivent de Bruxelles, du département du travail, etc. Et tout. Donc, quand ils font un appel d'offres, ils doivent donc rentrer très souvent. Alors maintenant, ils le font faire par l'intelligence artificielle, qui va chercher tous les trucs. Donc, l'intelligence artificielle remplit le dossier du gouvernement à la perfection. Et donc, le seul boulot des ressources humaines à un moment-là, c'est de relire qu'il n'a pas fait une grosse bêtise, tu vois, rapidement avec un crayon à la main. Donc on en arrive dans un monde où ça va être une intelligence artificielle dans le gouvernement qui mettra au point un questionnaire qui sera rempli par une autre intelligence artificielle et ça sera un gain de productivité total parce que tout le monde s'en fout finalement, tu vois, c'est... Mais de temps en temps, il faut quand même relire, quoi. Faudra qu'il y ait un type qui relise. Mais à la place de passer 24 heures à remplir le truc et à vérifier tous les textes de loi, ça sera fait automatiquement. Donc, tous les travaux complexes et emmerdants vont être de plus en plus faits par ces trucs-là.
Oui, parce que c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi.
Bah mais oui, bon. C'est comme les poissonneurs de micro. Oui, le poissonneur de ticket.
Delilah.
C'était un très joli film, d'ailleurs, avec Brassens.
Bah, c'était la chanson « Je suis le poissonneur, Delilah ».
Ça, c'était Gainsbourg.
Da-na-na-na-na, opéra. Voilà, c'était pas, c'est vrai, des métiers. Mais c'est marrant parce que tu vois, quand on est arrivé à Londres, quand j'étais petite, donc on est en 81, dans le bus, il y avait encore deux personnes. Mmh. Il y avait le conducteur et tu avais le type qui passait avec une sorte de machine qui tournait comme ça. Any more fast, please, any more fast. Toi, t'étais là, tu te donnais tes 15 pence, genre.
Ouais. Et quand on les filait à ton frère, les 15 pence pour prendre le bus, lui, il allait à pied au lycée pour garder les 15 pence.
Oui, pour garder les 15 pence, qui était 1,50 francs, hein, juste pour citer. Après, c'est passé à 20 pence. Et c'était la toute petite pièce octogonale.
Ouais.
C'était ouais. Donc il faut il y a 5 20 pence to make a pound.
Voilà, so. Il fallait 5 fois 20 ça fait 1.
Mais les maintenant je crois que c'est 1,20.
Mais ce qui se passe en Angleterre, ce qui est pas bête, c'est que vous maintenant quand vous devez aller prendre le métro, vous mettez votre carte de crédit et vous n'avez pas besoin d'acheter un ticket.
Ah, mais partout. Il y a que en France où c'est très compliqué. Alors si, alors dernièrement ils ont quand même fait un système où tu peux dématérialiser ta carte Paylib, mais t'es quand même obligé. Mais tu vas à Madrid, tu vas où tu veux, tu passes ta carte comme ça. Oui. Londres, ça fait déjà 5 ans où tu passes ta carte. Enfin, la plupart du temps, tu peux l'avoir dans ton téléphone.
Ils prélèvent quand tu sors.
Oui.
Il te donne un ticket, tu le redonnes et à ce moment-là, paf, il
prélève. Non, tu scannes ta carte comme ça. Voilà. Bon, voilà, c'était quand même assez simple. Alors, Maxime a une question pour toi. Cher Charles, dans une conférence publiée par la chaîne YouTube Grand Angle, Monsieur Gave a dit qu'investir dans les private equity, c'était idiot. Pourrait-il expliquer pourquoi? Alors que le rendement sur 10 ans s'approche de 10% en déduisant l'inflation.
Alors, le private equity, c'est des gens qui vous disent, écoutez, vous allez me donner votre argent, je vais le garder 10 ans, et avec ça, je vais acheter des entreprises et avoir des bien meilleurs résultats que la bourse. Bon, mais comment ils y arrivent? Eh bien, ils y arrivaient avec un truc assez simple, c'est que les taux d'intérêt étaient extraordinairement bas. Ouais. Donc, si vous empruntez, allez, à 1... et que vous achetez des affaires qui rapportent du 5, et que vous mettez simplement 25% de capital et 75% d'emprunt que vous avez fait à la banque, bien sûr que vous ferez du 10. Donc le private equity, c'est un machin qui ne marche que si les taux d'intérêt sont anormalement bas. Mais si les taux d'intérêt retournent à un prix de marché, ben, ils gagneront pas un rond, ils feront beaucoup moins bien que la bourse, puis en plus ils prennent 2% par an. Donc les private equity, ça n'est qu'un résultat de taux d'intérêt imbéciles qui ont existé, qui ont ruiné nos pays.
C'est ce que tu expliques souvent aussi dans l'allocation du capital, c'est que les taux... pardon. Jeeves, tu te tiens bien, viens ici chérie, ça suffit.
Non, on sort pas.
Que ça a amené à une mauvaise allocation du capital, justement, en ne permettant pas de nouvelles croissances. C'est-à-dire, la plupart du temps, quand tu as des taux zéro...
Tu vas acheter des affaires existantes.
Et tu vas faire des montages financiers à n'en plus finir.
Et tu vas virer la moitié des employés.
Voilà. Et alors que dans un business normal, tu aurais eu X personnes qui, à un instant T, auraient lancé, je sais pas, une parfumerie. Et un de ceux-là aurait un peu trop acheté de machines, aurait un peu trop... voilà. Et donc, toi, tu attendrais paisiblement de racheter ton concurrent. Et voilà. Et ça ne permet plus.
Mais je
ne
suis pas le seul à le dire. Warren Buffett dit exactement la même chose que moi. C'est-à-dire, il dit le private equity, c'est l'une des plus grandes escroqueries qui ait jamais existé. Mais l'avantage aussi, là, j'ai un exemple pour lequel il y en a beaucoup, c'est que si tu achètes du private equity, que tu es un grand fonds de pension américain, tu vas mettre comme valorisation la valorisation du portefeuille que te donne le private equity. Tandis que si tu achètes des actions, il faut prendre la valeur des actions qui sont là. Donc, les fonds de pension disent « c'est merveilleux, mon truc monte de 10% par an, il ne lui arrive rien ». Mais si un jour, c'est simplement à la sortie qu'on verra
Qui avait un maillot de bain ?
Qui avait un maillot de bain ? J'ai pas du tout certain qu'on sorte. On t'a dit, vous avez fait 10% par an, et puis les dernières années, c'est ce qui s'est passé pour les SCI en France. Tu sais, on nous expliquait, il n'y a pas de risque. Les SCI, c'est des sociétés civiles immobilières. Et puis d'un seul coup, au moment où tu veux la vendre, on t'a dit, ah bah oui, mais malheureusement, l'immobilier a baissé, il y a une décote de 40% maintenant. Mais pendant des années, on t'expliquait que les SCI ne pouvaient pas baisser, puisque l'immobilier ne baisserait jamais. Ben, il a baissé.
Alors, Hicham te demande si tu peux nous expliquer la bulle des actifs japonais dans les années 80 et son éclatement dans les années 90 et son impact sur le Japon depuis et quel est le rôle des États-Unis dans cette manœuvre.
Oula, ben là, il faudrait écrire un livre. Mais alors,
en gros.
Alors, pour ceux que ça intéresse, j'ai écrit ce livre. Ça s'appelait « Des lions menés par des ânes » et j'ai expliqué l'imbécilité qui s'était passée au Japon. Bon, faire une histoire courte, une histoire longue assez courte. Le yen, au milieu des années 80, le Japon est extraordinairement compétitif. Le yen n'est pas trop élevé, etc. Et Monsieur Balladur, etc., avec les autres, avec Monsieur Baker, et je ne sais plus qui d'autre, je ne sais plus, en Allemagne, ça ne devait être Köhl qui était là, décide qu'on va stabiliser les monnaies, on va faire les accords de Paris, il va y avoir un taux de change fixe, ou presque fixe, entre le yen, le mark et le dollar. Très bien. Et à ce moment-là, qu'est-ce que font les États-Unis ? Ils se mettent à imprimer du pognon, parce qu'il devait y avoir une élection, j'en sais rien. Et tout le monde achète du yen, en se disant, ben, c'est la monnaie la moins chère, c'est les plus compétitifs, maintenant ils vont gagner de l'argent gros comme eux, puisqu'ils vont rester sous-évalués. Donc, il y a des masses de capitaux gigantesques qui arrivent pour s'investir en yen. Une fois que tu es en yen, tu te dis, qu'est-ce que je vais acheter ? Achète des actions ou de l'immobilier ou des terrains. Et donc le prix des actifs au Japon sous cette masse qui arrive de l'extérieur se met à monter comme une fusée. Ce qui fait qu'en 1989, le palais impérial de Tokyo, qui est un petit grand, avait une valeur immobilière supérieure à toute la Californie.
Oui, mais subjective.
Bah, c'est-à-dire que si tu mesurais là, tu disais...
Non, mais je veux dire, c'est parce que, à cause du phénomène que tu viens...
Voilà, c'est ça, il y avait trop de pognon, quoi.
Oui,
ça n'avait plus aucun rapport avec la réalité.
Non, je dis ça parce que quelquefois, en France, j'ai cette impression, quand je vois des appartements de 150 mètres carrés à 8,9
millions, tu te dis, il y a quelque chose qui va bien. Et à ce moment-là, les banques se mettent à prêter massivement à l'immobilier... qui ne peut pas baisser, qui se met à monter comme une fusée, ce qui fait qu'en 1990, sur les 10 plus grandes sociétés du monde, il y avait deux banques japonaises et deux ou trois sociétés immobilières japonaises. Mais c'était vraiment le truc, tu sais, quand on dit souvent ici, si le prix d'un 300 mètres carrés à Paris double ou triple... Personne s'est enrichi. Il y a plus, il y a toujours que 300 mètres carrés.
Les gens ont du mal avec ce concept, alors que
il y a une différence entre la valeur et le prix.
Voilà. Et ça, c'est très important. Et c'est ça rejoint aussi la plupart du temps quand on parle des fonctionnaires en disant. Il n'y a pas de création de richesse. Les gens prennent ça mal en disant mais est-ce qu'une infirmière, est-ce qu'une institutrice. Bien sûr, mais bien sûr que ces emplois sont nécessaires. Et d'ailleurs, du reste aussi, c'est très important de dire que quand Charles râle sur les fonctionnaires, c'est le millefeuille territorial qui est en cause. On ne remet évidemment pas en cause le travail de chacun. C'est simplement que la multiplication d'emplois dans le public qui est beaucoup trop grand, et ça n'est pas la faute des individus qui le constituent.
Qui est payé par la dette.
Et qui est payé par la dette. Et ça n'est pas la faute des individus qui les constituent. Et ça n'est pas créateur de richesse au sens économique. Ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur. Encore une fois, ton père était dans l'armée. À ce titre.
Comment vous mesurez la valeur d'un officier ? J'en sais rien, moi.
Voilà. Mais alors,
la valeur économique d'un officier, vous dites, c'est ce qu'on appelle les fonctions régaliennes. Par définition, la communauté décide qu'elle doit avoir
X commandants, X généraux, X lieutenants, voilà. Et on l'a tous décidé en commun, et on s'est dit, voilà, on va faire de la même façon qu'on va décider qu'on veut des professeurs d'université, qu'on veut des instituteurs, et qu'on veut des infirmières et des médecins. Et c'est très bien. Le problème, c'est quand... Et ça n'est pas trop de médecins ou trop de professeurs aujourd'hui le problème. On sait bien que c'est trop d'employés de la mairie qui font je sais pas quoi. C'est trop d'employés de comité Théodule
qui ne servent à rien. Mais c'est ce que dit Milley. Il a une phrase magnifique. Il dit c'est pas en doubler la quantité de monnaie pour enrichir les gens, c'est à peu près comme doubler la quantité de diplômes pour rendre les gens plus intelligents. C'est pas parce que vous doublez la quantité de diplômes que vous aurez plus de gens intelligents, quoi. C'est pas si vous doublez. Donc ils ont créé de la monnaie sans contrepartie de valeur. Quand la bulle a éclaté au début des années 90, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que les valeurs ont été détruites. Comme il y avait eu énormément de pognon qui avait été prêté contre ces valeurs, les banques ont sauté, les compagnies d'assurance ont sauté, et on est rentré dans ce que Irving Fisher appelle une déflation par la dette. Et je vous renvoie à l'article qui avait été écrit en 1934 par Irving Fisher, qui s'appelle « La théorie de la déflation par la dette » d'Irving Fisher. Vous en trouvez des traductions.
C'est un peu velu. Hein.
vous en trouvez des traductions sur le net, mais c'est très bien fait. C'est-à-dire qu'il dit que les grandes dépressions arrivent quand vous avez un surendettement, création de valeur et prêt contre cette création de valeur. Mais c'est un peu... Aujourd'hui, on n'est pas très loin de ça parce que on a surendettement, mais c'est pas le secteur privé qui l'a fait, ce surendettement, contrairement au Japon, c'est le secteur public. Et donc, le vrai problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas très bien qui on va mettre en face de la bulle quand elle va éclater, puisque l'État est ruiné. Normalement, c'est l'État qui prend la succession du secteur privé en disant c'est moi qui prends les dettes à mon rang. Voilà. Mais là, on ne pourra pas le faire. Donc, on a un vrai problème en France. Mais c'était donc un truc tout à fait classique, c'était la déflation par la dette.
Alors, Joseph M. dit, bonjour, merci pour vos émissions. Vous parlez toujours de l'Europe et de l'Asie, mais pourquoi ne parlez-vous jamais de l'Amérique du Sud et pourquoi est-ce complètement oublié ?
Alors, on parle un petit peu de l'Amérique du Sud.
Bon, alors déjà, Joseph, on ne peut pas avoir une compétence dans tous les domaines. Et de la même façon, vous êtes nombreux à nous dire vous ne parlez jamais de l'Afrique. Parce que, encore une fois, on est complètement incompétent sur ces questions-là.
C'est très gros, l'Afrique. C'est très grand. Voilà. Les gens regardent...
Je sais qu'un peu chez Gafkelwell, ils travaillent avec le Botswana.
Oui, on a quelques contacts et tout. Mais pour revenir à votre question, l'Amérique latine, c'est très intéressant. Parce que vous avez aujourd'hui une série de pays en Amérique latine qui commencent à avoir une gestion convenable de leurs affaires. C'est-à-dire, c'est le Pérou, le Chili, d'une certaine façon le Brésil.
Et maintenant l'Argentine.
L'Argentine qui a l'air de tourner le virage, et le Mexique. Donc, si vous voulez acheter ce que j'appelle des contrats, c'est-à-dire des obligations de pays, où vous êtes bien payé pour le risque que vous prenez, vous pouvez regarder des choses comme les obligations brésiliennes. Je ne sais pas si elles sont faciles à acheter, mais vous avez des obligations brésiliennes qui vous donnent du 4 ou 5% en termes réels, après inflation, ce qui est tout à fait exceptionnel. Donc, je me dis que quelqu'un qui voudrait acheter des contrats, vendre des obligations à 3% nominal en France, c'est-à-dire à 0% réel, pour acheter des obligations brésiliennes à 5 ou 6% réel, c'est pas complètement idiot.
Alors, je pense que ça sera probablement dans notre dernière question. Michael te demande « Bonjour, je suis arrivé il y a peu sur votre chaîne et j'ai bien compris votre grand engouement sur l'or. » Alors, ça n'est pas un grand engouement sur l'or, c'est parce que tous les autres sont débiles.
Hein, parce que Charles, on y arrive par défaut,
parce que vous auriez pris le coco en 2012-2014, il n'était pas spécialement engouement sur l'or, c'est juste parce que tous les autres sont crétins. « J'aurais aimé savoir votre point de vue que je ne trouve pas sur l'argent métal. » Alors, écoutez tous, parce que vous me posez souvent cette question, on y répond aussi souvent, mais visiblement, ça ne rentre pas dans le coco. Alors, on recommence sur l'argent métal.
Alors, l'argent métal, ça vient de très loin, puisque l'or étant très rare et très cher à trouver, on a beaucoup de systèmes qui étaient indexés sur l'argent. Par exemple, la Chine, pendant tout le 19e, sa monnaie était fondée sur l'argent métal, non pas sur l'or. Donc, c'est un métal qui a une histoire économique, monétaire. Vous voyez qu'il y a, donc il y a beaucoup de gens qui s'y attachent. La réalité avec l'argent, c'est qu'on s'en sert beaucoup dans l'industrie. Alors imaginez que vous ayez un grand boom industriel, le prix de l'argent va monter, comme le prix du cuivre. C'est un peu pareil. Ils vont tous les deux monter beaucoup. Et puis, s'il y a une récession, paf, le prix de l'argent va se péter la gueule. Donc le contenu monétaire de l'argent, qui varie en fonction à l'inverse des autres monnaies, en quelque sorte, c'est à peu près 40%. Alors que l'or, c'est à peu près 90%. Donc si vous voulez jouer, si vous voulez prendre une position à découvert sur les banques centrales qui gèrent notre pognon comme des cochonnes, vous prenez de l'argent, de l'or, ça marche, 90% c'est ce que vous voulez faire. Vous prenez de l'argent, c'est simplement 40 ou 50% à tout casser. Donc ce qui m'embête avec l'argent, c'est que ça sert à quelque chose. L'or, ça sert à rien d'autre, si ce n'est à jouer contre les banques centrales. Quoi.
Et du coup, ton avis sur le palladium et le platine ?
Mon incompétence ne le dit plus qu'à mon ignorance, tu vois.
Ce sont des marchés aussi...
Très étroits.
Des compétences de terrain, de courtier qui font
S'il y a un nouveau concurrent qui apparaît, alors c'est peut-être le bitcoin, on en a souvent parlé ici. Mais je le regarde avec beaucoup d'intérêt, parce que c'est la première fois dans l'histoire qu'on essaie de créer une réserve de valeur qui ne soit appuyé ni sur un État, ni sur l'or. Et ça, je trouve ça assez rigolo, parce que ça n'a jamais été essayé. Donc, si je regarde ça, je ne sais pas si ça va marcher, mais en tout cas, ça m'intéresse beaucoup.
Alors, on te demande aussi, là, de faire un point sur le portefeuille idéal. Alors, il ne vous aura pas échappé que donc nous avons monté l'Université de l'Épargne...
À cause du portefeuille idéal, puisqu'on avait plein de questions, on s'est dit, bon...
Et en réalité, donc, le portefeuille a bougé il y a peu. Je l'avais mis sur Twitter, mais on va donc en reparler. On est sorti des 10 grandes valeurs, quoique, je te laisse commencer, j'y reviendrai.
Alors, le portefeuille idéal, ce que j'avais fait il y a 4 ans, je crois, je ne sais plus très bien, c'est qu'il y avait 10 valeurs françaises qui n'avaient rien à voir avec le gouvernement, qui étaient dans tous les domaines. Alors, ces 10 valeurs françaises, parmi celles-ci, il y en a un certain nombre que je garderai certainement. Et les trois qui sautent aux yeux, c'est Total, c'est Schneider et c'est Air Liquide, qui sont des valeurs industrielles qui bénéficieront du boom asiatique. Les autres, elles sont plus sensibles à la consommation mondiale, elles sont plus sensibles au tourisme, etc. Bon, vous pouvez, il n'y a pas vraiment de raison de les garder, tant plus que le portefeuille a très bien fait. L'autre moitié du portefeuille, c'était à peu près 17% en or, ça vous gardez, et 33% en obligations chinoises. Les obligations chinoises ont bien rempli leur office, elles ont monté de 25% en euros à peu près sur la période, contre les obligations françaises qui ont baissé de 25%, donc ça vous fait une différence de 50%. Mais là, à 2% de rendement, je me dis que j'ai plus grand-chose à gagner, et ça m'intéresse pas tellement. Donc on a remplacé les obligations chinoises par du yen, qui est traité très 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 sous-évalué, et on a, pour ceux qui ont pu faire, on a remplacé les actions françaises, les 10, par un ETF sur l'Asie et le Japon. Et on a mis ce qui restait en un ETF énergie.
Voilà. Alors,
donc on a énergie, cash en yen,
or
et actions Asie et Japon.
Alors... Beaucoup d'entre vous reviennent, que ce soit à l'Université de l'Épargne ou là, vont revenir en me disant « Ah mais oui, mais moi, c'est dans le cadre d'un PEA. Comment je peux choper un ETF asiatique ou des ETF or ?» Le problème, c'est que dans le cadre du PEA, les ETF auxquels vous pouvez prétendre, type Amundi, ne sont pas super pour moi et sont assez moyens. Donc, la véritable question va être, est-ce que vous choisissez de quand même jouer ces ETF au travers de votre PEA, ou alors, comme vous faites le choix de rester dans le cadre de votre PEA, et dans ces cas-là, vous gardez les 3 actions type Total dont Charles a parlé, parce que la limite de l'exercice, c'est que nous, les ETF qu'on a regardés, encore une fois, ne sont pas accessibles depuis vos PEA. Ceux qui le sont moyens.
Et je voudrais dire quelque chose, n'oubliez jamais que si l'État vous donne un avantage fiscal, c'est que Il veut vous forcer à acheter des trucs en France, il veut forcer... Alors, il y a des choses en France qui sont très bien, ce que j'avais essayé de montrer la dernière fois, mais c'est qu'ils vont, en faisant ça, ils limitent votre choix, ils limitent votre liberté, et vous risquez, pour un avantage fiscal, de prendre une gamelle que vous n'auriez pas prise si vous étiez mis ailleurs. Donc,
parce que
l'avantage
que
je... fiscal, je me méfie toujours.
Ce voilà. que vous avez... 75, oui, ce, en plus il y a des critères ESG dedans, donc
ah non,
voilà.
Surtout pas. Hein.
Non mais voilà.
Critères ESG, vous prenez pas. Hein.
Donc tout ça pour dire que si vous voulez jouer, comme on le dit, l'or en ETF, l'Asie et les valeurs énergétiques, faites-le à partir d'un CTO, ayez votre compte titre à vous et faites passer vos ordres. On vous donne quelques pistes à l'Université d'Épargne, mais faites-le avec la possibilité de le range, enfin la fourchette vraiment étayée. Et à la rigueur, et dans ces cas-là, si vous devez le faire, et c'est ce que je pense, depuis votre PEA, et ben dans ces cas-là, ne jouez que les petites actions dont on parlait tout à l'heure, parce que sinon, ça part en cacahuète, et je me rends compte que ça va
être
optimal.
Dites-vous bien que le gouvernement a fait des avantages fiscaux de façon à vous empêcher de déployer librement votre capital. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, Sarkozy avait fait un... des textes de loi pour favoriser le référendum d'initiative populaire. C'est un de mes amis qui avait été chargé de ça, qui était député à l'époque, et il avait comme consigne formelle de Sarkozy de faire un texte qui soit inapplicable. C'est-à-dire que, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire on vous disait, vous pouvez faire un référendum d'initiative populaire, mais les conditions qu'on y mettait étaient telles qu'il n'y avait pas la moindre chance que vous le fassiez. Et donc, ce qu'il cherche à faire là, c'est vous mettre des avantages fiscaux qui vous garantiront que vous gagnerez pas d'argent à l'arrivée. Donc, c'est pas des avantages fiscaux, c'est des désavantages fiscaux.
Voilà. Écoutez, j'espère que ces petites questions vous auront intéressé. On a fait un petit tour, là.
On a fait un petit tour, mais c'était l'idée de base, et encore une fois, c'est de retrouver votre liberté. Donc, vous pouvez pas courir le 100 mètres des Jeux Olympiques si on vous colle dès le départ 40 kilos sur le dos, quoi. C'est même pas la peine. Voilà. Alors, vous devrez payer des impôts, mais j'ai tellement de mes amis qui vivent comme des rats depuis des années à l'extérieur de France, dans des pays qu'ils aiment pas, à des endroits où ils s'emmerdent, pour ne pas payer d'impôts en France, que, sauf si ça devient complètement punitif, il vaut mieux payer ses impôts et être libre que de rester dans des structures qui vous empêchent de gagner de l'argent. C'est triste, hein ?
Eh oui, voilà. Écoutez, merci énormément de nous avoir suivis. On vous dit, mais n'hésitez pas à mettre des petits commentaires en dessous, à liker nos vidéos.
Et aller sur la. Et on n'arrive pas à 500 000, on n'y arrive pas.
Mais
non,
si,
400
si,
000,
si.
400 000, 400 000.
C'est progressif, c'est à peu près 1200 tous les mois. Donc on va arriver. Et je vous remercie beaucoup de nous suivre et je vous dis à très bientôt. Merci,
merci
au revoir.
Beaucoup.